voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Face aux réalités humaines, économiques et écologiques actuelles, de plus en plus de citoyens s'interrogent sur notre devenir et sur le rôle que chacun peut jouer. Il ne s'agit plus d'être simplement le spectateur d'un système qui nous démange, mais de devenir l'un des acteurs du changement. D'abord analyste financière dans un grand groupe, Catherine a fait le choix de sauter dans l'inconnu. Du jour au lendemain, elle quitte son travail et décide d'incarner le changement qu'elle aimerait voir dans le monde. Catherine nous explique comment elle a remis en question sa vie professionnelle avant de se sentir en phase avec son métier d'aujourd'hui.
Je suis quelqu'un qui met bien les maths, qui a donc fait une école d'ingénieur et qui après a fait des métiers qui n'est pas des métiers d'ingénieur mais des métiers de cadre. J'ai été analyste financier boursier, j'ai travaillé ensuite dans une société financière, puis dans l'industrie. Et puis j'ai eu la crise de la, non pas quarantaine, non pas cinquantaine, mais 45aine, ce qui est un peu original. J'ai fait un bilan professionnel, et parce qu'en fait je dirais que ma vie professionnelle ne correspondait plus du tout à mes idées, mes engagements personnels. Et suite à ça, j'ai voulu avoir une activité professionnelle qui permette, c'est peut-être pompeux, prétentieux, mais bon, en tout cas c'est comme ça que j'ai posé le sujet, participer à l'amélioration de la condition de l'homme et de l'environnement. Bon, donc c'est comme une poule qui a trouvé un couteau, et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et c'est comme ça qu'au bout de quelques mois, j'ai fini par me dire que créer un magasin Biocoop, c'était une bonne façon professionnelle d'être en alignement entre mes idées et mes actions. Et puis sinon, je suis aussi la mère comblée de 4 enfants.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé à 45 ans? Pourquoi est-ce qu'on remet tout d'un coup sa vie en question
Peut-être qu'on se pose des questions, peut-être qu'on est tombé dans la revue Nature et Progrès qui vous fait avoir une autre idée sur l'écologie, l'alimentation, plein de choses. En plus, quand on a la chance ou la malchance de travailler dans l'industrie automobile et que vous avez un grand patron qui vous dit qu'il a trouvé un créneau porteur qui était les 4x4 et que vous êtes en train de penser écologie, vous dites « mais qu'est-ce que je fais dans cette galère ?» Voilà, et puis et quand vous êtes dans une entreprise où on parle plutôt précarisation de l'emploi, appel à la sous-traitance, délocalisation de la sous-traitance, et que vous êtes dans une logique plutôt sociale, pour ne pas dire autre chose, et que vous avez plutôt envie de créer des emplois, vous rendez compte que vous êtes contribué à quelque chose à laquelle non seulement vous ne croyez plus, mais que vous rejetez de tous vos ports. Donc c'est soit la dépression de suicide, soit il faut faire autre chose. J'ai choisi plutôt de faire autre chose.
Et qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là où on essaie de tirer les coups vers le bas, délocaliser? Qu'est-ce qui se passe?
Il se passe que on raisonne de plus en plus par rapport à la fois aux intérêts de certains et par rapport à ce que pensent les analystes financiers. On pense la priorité, c'est la rentabilité des fonds propres. Quand on vous explique qu'il faut faire partir les prestataires juste avant Noël pour les réembaucher le 2 janvier parce que ça va contribuer à réduire les coûts, et que vous dites, mais je comprends pas, où ces personnes n'apportent pas de valeur ajoutée, et dans ces cas-là, faut pas les réembaucher le 2 janvier, ou elles en apportent, et c'est complètement stupide de les faire partir. De la même façon, quand chacune des boîtes optimise son intérêt personnel, en licenciant, c'est peut-être très très bien, mais la somme de l'intérêt personnel n'est pas l'intérêt collectif. Or, ce que j'ai toujours dit, c'est que moins il y aura de gens employés, moins il y aura de gens pour acheter des voitures. Mais c'est vrai pour acheter des voitures, c'est vrai pour acheter n'importe quoi. Plus on précarise les gens, moins ils ont de pouvoir d'achat. Moins ils ont de pouvoir d'achat, plus ils achètent à pas cher. À pas cher, c'est-à-dire des vêtements à rien du tout fabriqués dans les sweatshops à l'autre bout du monde. Donc je pense que c'est l'antithèse de ce qu'il faut faire. Il faut recréer la valeur pour redonner du pouvoir d'achat aux gens, pour qu'ils puissent acheter des produits faits près de chez eux par des gens payés normalement. Et je crois que c'est plutôt ça le cercle vertueux, plutôt que, enfin en tout cas moi j'avais plus du tout envie de participer au cercle vicieux.
Mais pourquoi est-ce qu'on se pose la question? Parce qu'on peut très bien passer sa vie à bosser pour une entreprise en étant dans cette dynamique de créer du capital sans se soucier du bien-être de l'environnement et se soucier du bien-être humain. Donc pourquoi certaines personnes, ou pourquoi toi Catherine, tu en es venue à se poser ces questions, et pourquoi tu as aussi attendu aussi longtemps peut-être?
Ça, je ne sais pas, parce que d'un côté, on peut dire qu'il y a 80, 90, 95% des gens qui ne se posent pas de questions. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi ce déclic s'est fait à ce moment-là. Moi, je pense qu'après chacun... Enfin, si, j'ai un premier déclic qui s'est fait à titre politique, le 21 avril 2002. Le 21 avril 2002, c'est Le Pen qui passe au deuxième tour des présidentielles. Et moi qui me dis que je n'ai pas eu d'engagement politique jusque-là, mais que là, là, j'en peux plus. Alors, depuis, j'ai eu un engagement politique qui ne me satisfait qu'à moitié, mais ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, je pense qu'on ne peut... Enfin, compter toujours sur les autres, c'est bien, mais c'est comme ça qu'on en finit là. Donc après, on ne peut pas tout. On ne peut pas tout porter sur ses épaules. Mais au moins, on n'a pas de choses à se reprocher. Voilà, donc je pense que ça a commencé comme ça. Puis quand on a un engagement politique, qu'on défend les 35 heures, qu'on défend ci, qu'on défend ça, ben après, je veux dire, c'est devenir pas simplement subir, pas simplement être exécutant d'une politique déterminée par autrui. Bon, l'avantage ou l'inconvénient, c'est que ben, quand on est chef d'entreprise comme moi, on se fait réveiller à 3h15, 3h30 par l'alarme qui se déclenche pour rien, donc c'est un peu fatigant. Mais à contrario, on peut quand même décider de sa politique sociale, on peut décider que contrairement à d'autres, on va pas javeliser les invendus, mais on va permettre à l'équipe d'en profiter, ou on va en donner pour des discos soupes ou choses comme ça. On peut déterminer qu'on va faire une réduction maximum pour les employés, pour qu'ils puissent aussi manger bio et que ce ne soit pas simplement bien pour les clients, mais inabordable pour le personnel.
On a sauté une étape, on allait un peu vite. Tu as aussi parlé de cette part du colibri, donc effectivement, moi je comprends ce que tu veux dire. On va quand même le rappeler, donc la part du colibri, ça vient d'une légende, donc j'aimerais que tu me la racontes.
La légende, c'est qu'il y a le feu dans la forêt, il y a un petit colibri qui passe son temps à faire des allers-retours vers le lac voisin, il amène une goutte sur le feu, il repart, cherche une autre goutte, etc. Et les animaux de la forêt qui est en feu lui disent « Mais écoute, colibri, t'es complètement fou, et la forêt est en feu, tu devrais t'enfuir. » Et ensuite, ça sert à rien, tu amènes une goutte, c'est pas avec une goutte par-ci, une goutte par-là que tu vas réussir à éteindre l'incendie. Et le colibri ne veut pas culpabiliser les autres, mais il dit, en tout cas, moi je fais ma part.
Voilà, c'est partant de ce constat, la forêt brûle, et chacun essaye modestement, ou en tout cas, ce serait l'idéal que chacun puisse modestement essayer de contribuer au changement en éteignant l'incendie. Donc cet incendie, on peut y voir en plusieurs choses, on peut y voir une crise de sens, une crise écologique, une crise économique. Toi, qu'est-ce que tu vois dans ces flammes ? Quel serait pour toi l'incendie ? Qu'est-ce qui brûle aujourd'hui ?
Il y a tellement de choses qui brûlent. Ce qui brûle, c'est le chômage. Ce qui brûle, c'est la diabolisation de l'autre. Je pense que ce qui a fait aussi la société française, c'était l'intégration de plein de gens, de mondes différents. Et là, on est complètement dans le repli sur soi, dans le repli sur ses cultures, dans le refus de l'autre. C'est tout à fait typique. Ce qui brûle, c'est qu'on est en train de polluer la terre et l'eau pour les générations futures. Ce qui brûle, c'est que par nos propres pratiques, on est en train de détruire, enfin, donc le futur, mais aussi détruire l'actuel. Je veux dire, tout ce pourquoi on fait appel à des produits chimiques, que ce soit les contenants alimentaires, que ce soit les engrais, que ce soit les pesticides et tout ça, c'est en train d'empoisonner les gens qui produisent, c'est en train d'empoisonner les gens qui habitent à côté de ceux qui produisent, c'est en train d'empoisonner ceux qui consomment. Donc il y a aussi des vrais enjeux de santé publique. Donc l'autre, encore ce qui brûle, c'est le réchauffement climatique, enfin le réchauffement ou le dérèglement climatique, puisqu'il y a des endroits où il fait de plus en plus froid. Ce qui permet à certains de pouvoir dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Donc c'est le dérèglement climatique. Ce qui brûle, c'est à outrance l'enrichissement de quelques-uns et l'appauvrissement de tous.
Donc partant de ce constat, l'idée c'est de pouvoir faire sa part. Donc c'est à ça que je vais m'intéresser maintenant, à ta part du colibri. Et tu choisis donc de créer un magasin, d'ouvrir une biocoop. Donc j'aimerais que tu partages avec nous cette expérience. Comment est-ce qu'on devient d'un statut de salarié à un statut de chef d'entreprise ?
Il faut une certaine dose d'inconscience pour quitter le statut de salarié après 19 ans dans une grande entreprise pour devenir chef d'entreprise. Mais bon, heureusement, ce fut mon cas et j'encourage pas mal de gens à le faire. Mon chemin à moi, ça a été de faire un bilan professionnel, comme je te disais, donc qui a dit que... La conclusion, c'était souhaite contribuer à l'amélioration de la condition de l'homme et de l'environnement. Waouh. Et puis aussi mon chemin personnel ou familial, ça a été qu'on consommait de plus en plus bio et que donc on allait faire nos courses à la Biocoop d'à côté. Ça, c'est très très bête. Bon, et puis c'est mon conjoint qui m'a dit, mais écoute, tu ferais peut-être bien d'aller voir Biocoop. Donc j'ai été sur le site de Biocoop et ce que j'ai vu m'a semblé plutôt sympathique. Donc j'ai envoyé une lettre exploratoire en disant je serais intéressé éventuellement par monter une Biocoop. Et quand j'ai rencontré mon interlocuteur chez Biocoop qui m'a expliqué toute la démarche de création d'emploi, la démarche sociale, d'une pas seulement rémunération, enfin d'une meilleure considération des salariés, qui m'a indiqué toute la dimension également environnementale, toute la dimension de créer de l'emploi local, de favoriser les petits producteurs, enfin tout ce qui fait la charte Biocoop que je t'invite à lire. J'avais l'impression d'être dans un monde gris foncé, et là j'étais comme quelqu'un qui est au milieu du désert et qui a vu une oasis et qui se dit j'ai vu l'oasis, c'est trop beau, et je relisais le truc, c'est ça. Et là je dirais c'est un peu comme tu étais à la quête du Graal et là t'as trouvé, mais le problème c'est que t'as 45 ans, donc t'es toujours mère de 4 enfants. Et là, faut dire est-ce que je saute le pas ou pas? Et puis j'avais la chance, enfin c'est ironique ce que je dis parce que c'est pour moi c'est extrêmement triste. J'avais la chance d'être dans une entreprise où il y a eu un certain nombre de suicides, de gens désespérés. Et là, on se dit on est dans une entreprise où on en arrive à une telle désespérance que les gens arrivent là. Je pense que c'est pas du courage d'en sortir, mais c'est une ardente nécessité. Et ce qui était d'ailleurs assez intéressant, c'est que le jour où j'ai annoncé à mon entourage que je quittais le jour même l'entreprise, des gens dont je pensais qu'ils étaient très heureux m'ont dit « Oh, quelle chance tu as !» Et j'étais en train de me dire, eux, ils sont toujours salariés avec le comité d'entreprise, le machin, le 13e, tout un tas d'avantages. Je vais dans le vide, je ne sais pas de quoi devait m'être fait, et eux, ils pensent que j'ai de la chance, ce qui m'a encore plus conforté dans l'idée que il y a urgence à bouger quand on n'est pas bien, parce que eux n'ont pas bougé et que je pense que c'était pas le bon choix. Je pense que le confort matériel c'est une chose, enfin il faut pas être dans un trop grand inconfort, mais je veux dire quand les gens sont malheureux, c'est pas une solution à terme. Enfin voilà, on peut pas perdre sa vie à la gagner.
Vous écoutez la voix du Kaizen.
En commercialisant des produits bio, forcément on commercialise des produits qui sont meilleurs pour la santé des consommateurs, meilleurs, et ça j'insiste vraiment beaucoup, pour la santé de ceux qui les produisent. Vraiment, il y a une responsabilité sociétale des gens qui ne consomment pas bio. Les gens qui ne consomment pas bio, ils admettent qu'il y ait des gens qui manipulent les produits chimiques, des engrais, des fongicides, des insecticides, etc., qui tuent à petit feu les agriculteurs qui les manipulent. Certains agriculteurs en ont conscience, d'autres pas, mais en tout cas, une chose est certaine, il y a une mortalité cancer bien plus importante aujourd'hui chez les agriculteurs que ça n'était hier, parce qu'ils manipulent les produits dangereux à leur insu. Donc voilà, là aussi une adéquation à une éthique en consommant bio, parce que c'est mieux pour les autres, pas seulement pour moi en tant que consommateur. Et puis donc bien sûr on participe aussi à la sauvegarde de l'eau, on participe à la sauvegarde de la biodiversité, mais voilà quoi. Et ce qui me semble important aussi, c'est à la fois d'être porteur d'exemple, mais dans le sens c'est donner envie. Je pense que c'est pas non plus en culpabilisant les autres qu'on va leur donner envie de bouger.
Donc ça consiste à agir par des actes et pas par des paroles.
Il faut aussi faire des paroles, mais bien sûr agir par des actes. Maintenant, là aussi, je n'ai pas vocation à dire que je suis parfaite. D'ailleurs, je ne suis pas parfaite, je te rassure. Mais je pense que c'est important qu'on voit la cohérence. Les gens qui disent « il n'y a qu'à Faucon » et qui ne font pas, les gens qui dirigent des magasins bio et qui eux-mêmes ne vont pas manger bio, ou qui dirigent des magasins bio et qui vont se balader en 4x4, c'est pas cohérent quoi. C'est toujours une recherche de cohérence. Personne. En tout cas, moi je prétends pas être 100% cohérente, mais en tout cas, on peut aller dans ce sens-là.
Vous écoutez la voix du Kaizen.
Comme la logique, c'est le profit, c'est de faire en sorte que l'animal grossisse le plus vite possible, que le fruit ou le légume grossisse le plus vite possible. Donc en général, ils sont également bourrés d'eau. Donc on croit payer des nutriments, des vitamines, des minéraux, etc. Mais on paye beaucoup d'eau. Donc, on est moins vite rassasié. Donc, finalement, on en mange plus. Ça aussi, il faut voir ça. Quand on mange des céréales complètes, on est plus vite rassasié que quand on mange du pain blanc, du riz blanc, des pâtes blanches. Donc là aussi, c'est un autre mode d'alimentation.
J'aimerais aussi, tu dis plus cher, donc le prix est plus cher. Il y a aussi cette notion de prix juste. On peut peut-être aussi expliquer ce que c'est que le prix juste. Parce que oui, peut-être qu'un kilo de fraises bio seront plus chers qu'un kilo de fraises industrielles. Mais on peut très bien l'expliquer de par la manière dont ce kilo est produit.
Oui, tout à fait. Ce qui est toujours important, c'est que quand on est toujours à la recherche du toujours moins cher, moins 10 ans. Je vais le dire en bio, mais je ne vais pas le dire en bio, je vais le dire aussi sur les vêtements. Si on veut acheter des robes à 10 euros, il faut se poser la question de combien d'heures de travail derrière et combien ont été payées des personnes qui ont fait ces vêtements. Ou prenons aussi l'histoire des baskets. Je veux dire, en général, il y a un budget de communication, des locaux à des prix incroyables, etc. Et la personne qui va, elle, avoir travaillé à la fabrication du vêtement ou des chaussures, elle aura touché epsilon. Ça veut juste dire que ce sont des gens qui sont à quasi-esclavage à l'autre bout du monde. Et pour la partie alimentation, c'est la même chose. Et en fait, c'est ça l'hypocrisie ou la manipulation auquel on est. C'est qu'on vous dit, allez chez machin, tu as le mousquetaire, t'as le moins cher du moins cher. Enfin, ils sont tous à faire la course du moins cher. Le problème, c'est qu'avec la course du moins cher, on détruit nos emplois pour aller mettre en esclavage des gens à l'autre bout du monde. Mais en détruisant nos emplois, on détruit nos revenus, notre capacité. Donc on est dans un cercle complètement vicieux. Il faut arriver à en sortir. Donc, je pense, j'en ai la conviction, que en mangeant bio, en achetant au maximum des produits locaux, on remet les choses dans le bon sens. Et peut-être qu'on peut se passer de choses inutiles. Est-ce que mettre du prix dans des choses de qualité, que ce soit de la nourriture, des vêtements, qui vont nous être utiles, qui vont durer longtemps, qui vont faire vivre correctement notre prochain, est-ce que c'est pas plus utile que d'aller claquer pour avoir les baskets à la mode, le jeu à la mode? À quoi passons-nous nos ressources? Et est-ce qu'on utilise de façon optimisée pour la planète, pour nous-mêmes, pour notre entourage, nos ressources? Ou est-ce qu'on est victime du marketing et qu'il nous faut absolument le truc dont la publicité et TF1 nous dit que c'est indispensable pour notre bonheur?
Catherine, donc tu as fait le choix de changer de vie, tu as fait le choix d'incarner tes valeurs à travers ta réalisation professionnelle. Non seulement tu as quitté ton boulot de salarié, mais en plus tu as réussi à créer de l'emploi. Ça aussi c'est intéressant parce qu'on est souvent à diaboliser le système économique actuel, alors qu'on peut très bien, dans ce système économique, arriver à créer de l'emploi tout en respectant une idéologie et des valeurs.
Oui, tout à fait. Alors ça, je crois que c'est vraiment important. Je pense qu'il ne faut pas diaboliser l'argent. Après, c'est simplement ce qu'on en fait. On peut alimenter la spéculation en allant acheter dans l'immobilier, et puis plus on achète, plus le prix monte, et puis voilà. Et créer une entreprise qui va créer des emplois. Voilà, donc je n'embauche qu'en CDI, j'embauche aux 35 heures ou au temps partiel choisi. Nous embauchons également des apprentis. Nous avons formé des personnes qui elles-mêmes ont créé ou vont créer d'autres magasins. Enfin, tu vois, je pense qu'on peut être cohérent dans ces choix. Enfin, il n'y a pas que soi-même, parce que je veux dire, ce qu'on disait sur le colibri tout seul, il ne va pas pouvoir éteindre la forêt. L'idée, c'est que si chacun se donne comme objectif de faire du bien autour de soi, se donne comme objectif d'essayer de mettre ses économies au profit d'un projet positif, je pense qu'on peut y arriver. C'est peut-être de l'idéalisme, mais je pense que des gens comme Rabhi, c'est bien ça, et c'est ça qu'il essaye de toutes ses forces de faire valoir, et je pense que c'est communicatif, parce que, je répète, quand on montre qu'on a fait un choix alternatif, qu'il y a des retombées positives, et qu'on est soi-même heureux, parce que voilà aussi, je pense que c'est ça qui est important, c'est de montrer qu'on vit positivement ce changement, ça donne envie, et ça donne envie à d'autres d'en faire autant, et eux-mêmes, c'est comme dans un orchestre, on va pas tous faire premier violon. Il y a d'autres qui vont faire du violon, puis il y a d'autres qui vont faire de l'alto, et puis d'autres qui vont faire, du piano, du tambour, du je ne sais pas quoi. En tout cas, il faut que chacun trouve sa voie, en tout cas dans une direction positive. Dans une direction positive pour la planète, dans une direction positive pour les autres, et dans une direction qui s'avère positive pour lui-même, parce que, on a un écho positif. C'est ça qui est aussi important. En croyant agir pour les autres, on agit aussi pour soi.
La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine à retrouver en kiosque tous les deux mois.